Donc j'aimerais commencer par un texte de l'Ancien Testament que vous connaissez, de l'Exode. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda le buisson brûlant, brûlé sans se consumer. Moïse dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici !» Et Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances, et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, l'Hittite, l'Amorite, le Périsite, le Hivite et le Jébusien. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu lui répondit, « Je suis avec toi. » Et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander, « Quel est son nom ?» Que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi au fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». En le lisant, j'avais presque envie de vous mettre en petit groupe pour faire une lecture avec ce texte. Peut-être on pourrait faire ça d'ailleurs après. Peut-être. Parce que c'est puissant. Et si on lit ça en clé de couple, ça explose. Quoi. C'est trop beau. Déjà parce que, donc pourquoi je choisis ce texte ? Parce que Moïse, qui avait un simple boulot, un simple travail, il vivait sa vie à lui. Dieu l'avait choisi depuis toujours. Il avait depuis toujours posé son regard sur lui. Et Moïse n'en savait rien. Donc ça veut dire que le regard de Dieu sur nous n'est pas notre regard sur nous-mêmes. Première chose. Après cette histoire de la flamme du buisson qui arde et qui ne se consume pas, vous savez très bien, c'est l'image du don de soi. Et malgré le don de soi, on ne se consume pas. Si on apprend l'art de se donner comme Dieu nous a fait, on ne va pas se perdre. Ça, c'est aussi, je pense, une image que doit nous accompagner pendant toute notre vie, parce que ça, on oublie. Et on a peur. On a peur de trop donner, de tout donner, de ne rien avoir pour demain. Moi, je suis beaucoup comme ça. Quand je parle, je dis tout ce que je sais, et après, je dis, après, je ne serai rien. Et la prochaine fois que je fais une conférence, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Et ensuite, je vais faire un détour. Intéressant. Donc, Moïse, au début, il est curieux, mais il a quelque chose dans son cœur qui lui dit, il y a quelque chose de grand là. Donc, il fait un détour. Il avait son chemin normal, mais il fait un détour. Et Dieu aime quand on fait des détours pour lui. Dieu aime quand, comme on dit en anglais, when you go out of your way. Quand tu fais un extra effort pour lui, quand tu vas un peu plus loin, quand tu abandonnes tes chemins normaux juste par fidélité à Dieu, tu vas un peu plus loin. Et Moïse, qui va un peu plus loin, par curiosité, parce qu'il veut juste voir qu'est-ce qui se passe là, trouve quelque chose qui est beaucoup plus grand de ce qu'il avait attendu. Ça, c'est aussi une des caractéristiques de Dieu. Quand tu vas à la recherche de Dieu et tu persévères, tu vas toujours trouver plus de ce que tu as cherché. Et Moïse, qu'est-ce qu'il trouve? Ben, il trouve une intimité avec Dieu comme personne ne l'a jamais eu avant lui. Il est celui qui va recevoir le nom qui va nous accompagner à travers l'histoire. Et en plus, il reçoit une vocation dont il ne savait rien de cette vocation. C'est-à-dire, Moïse arrive comme curieux et repart avec une vocation très claire d'être le berger d'un peuple. Et donc, il croyait que ça lui dépasse complètement. Il ne savait pas quoi faire. Donc, aussi un peu ce qu'on peut vivre dans toute vocation, mais aussi dans la vocation du couple, sur laquelle nous allons maintenant parler. Et donc, quand Moïse lui pose la question, mais je ferai comment? La réponse de Dieu, et ça c'est très beau parce que c'est aussi une réponse qu'il donne à tous les prophètes, n'est jamais, eh ben là, tu ferais ceci, ce, ça, et après tout ira bien. Il dit juste, je suis avec toi. Donc c'est vraiment la seule vraie réponse que Dieu va nous donner à travers notre histoire, je suis avec toi. Peut-être c'est une réponse, peut-être une réponse que je peux toujours donner à l'autre dans le couple, je suis avec toi. Peut-être c'est parfois la seule réponse dont l'autre a besoin, je suis avec toi, je ne peux pas te donner la solution, mais je suis là. Là, il y a aussi le maintenant. On ne va pas entrer dans tous les détails de ce texte, mais Dieu dit, maintenant le cri du peuple est arrivé. Ça veut dire, Dieu dit, j'ai entendu le cri du peuple. Ça veut dire, quand tu es seul dans la nuit et tu cries vers le Seigneur, un cri qui pourrait te paraître un cri de désespoir, et pourtant tu te tournes vers Dieu, ça veut dire, en fin de compte, c'est un cri d'espérance, c'est bien se rappeler. Et Dieu, il t'entend. Ça semble évident, mais ce n'est pas toujours clair. Pape François dit, prier, c'est la victoire sur la solitude et le désespoir. Parce que quand tu pries, tu n'es plus seul parce que tu es en communion avec le ciel entier. Et quand tu pries, le Tout-Puissant t'a entendu. Et donc, quand le Tout-Puissant t'a entendu, tu ne peux pas désespérer. Tu peux peut-être accepter que les choses ne vont pas forcément se passer comme tu voudrais, lui expliquer comment on devrait faire les choses, mais en tout cas, ils vont se passer d'une certaine manière. Je vais vous dire, je suis donc fils de mes parents, et avec mes parents, j'ai vu que les choses ne se sont jamais passées comme ils avaient prévu, et pourtant, Dieu a fait des grandes et des belles choses avec eux. Ils étaient des gens plutôt timides, peut-être. Pas tellement timide, mais qui n'auraient pas osé de parler à d'autres personnes de Dieu. Ils n'ont jamais cherché une mission. Ils ont juste signalé à Dieu d'être disponible, et de plus en plus disponible, après à travers Medjugorje, de plus en plus disponible. Mais après, Dieu leur il a fait que des personnes croisent leur chemin, et ça est devenu leur vocation qui continuellement. C'est transformé juste parce que le Seigneur le voulait. Donc ils ont compris sans le comprendre, c'est pas à nous à tout définir pour notre vie. Mais c'est aussi à nous à comprendre que nous sommes dans une vie qui n'est pas la nôtre. Nous sommes dans une histoire qui n'est pas complètement la nôtre. Donc c'est normal qu'on ne comprend pas tout. Et donc dans cette histoire, peut-être le plus important n'est pas qu'est-ce que je fais exactement, mais est-ce que j'arrive à réagir avec amour? Alors, donc, avançons un peu dans le thème. Oui, donc Moïse était dans une petite vie et lui, il était croyant, bien sûr, et il voulait que Dieu soit dans sa petite vie. Et moi, j'accompagne beaucoup de couples vers le mariage et aussi dans la durée. Et je vois que souvent, l'idée, quand je demande aux couples pourquoi ils veulent se marier à l'église, normalement, 9 sur 10 ne sont pas pratiquants qui viennent chez moi. Ben, ils ne savent pas très bien pourquoi, mais ils savent qu'ils veulent. Donc, ils savent que quelque chose en eux a une intuition sur le fait que le mariage est quelque chose de plus grand. Benoît XVI dit que toutes les cultures savent que le mariage est quelque chose de sacré. Ils savent tous. Et même les non-baptisés qui viennent, vraiment, ils savent que non, mais là, je m'approche de quelque chose qui est grand et mystérieux, donc j'ai besoin de le faire devant quelqu'un. Donc, en fait, même ceux qui disent ne pas être croyants, ils ont tous une intuition une idée de Dieu. Donc, mais souvent l'idée est que Seigneur, nous allons nous marier devant toi, donc tu viens nous aider. Et Dieu, il fait ça très volontiers. Mais c'est bien de se rappeler de temps en temps, c'est comme la Vierge Marie qui dit à Dieu, ok, tu peux m'aider dans mon histoire. Et Dieu dit, ouais, d'accord, mais si tu veux t'amuser, toi, tu vas entrer dans mon histoire. Et c'est beaucoup mieux. Et en fait, si vous voyez l'histoire du salut, c'est surtout ça. C'est les gens qui abandonnent leur histoire pour entrer dans une autre histoire qu'ils n'avaient pas choisie, mais qu'ils apprennent à choisir. Donc, Dieu veut nous faire sortir de nos petites vies pour entrer dans une plénitude qu'il pense pour nous. Et Dieu nous a créés à son image pour ainsi dire, pour qu'on puisse nous continuer son œuvre. Donc nous, les prêtres et vous, le couple, on est appelés à tellement plus. Antoine de Romanet, qui est maintenant l'évêque aux armées, qui était mon curé à Paris, il disait toujours, il y a des missions qu'on reçoit de Dieu, il y a des missions qu'on se donne à soi-même. Ça veut dire, à l'intérieur de la vocation que je vive, moi prêtre, vous couple, parfois on peut un peu se créer ses idées et suivre ses plans et ses projets, mais c'est bien de toujours revenir à la vocation initiale, originelle, et donc l'approfondir un peu. Pape François, en Amoris Laetitia, qui est un document vraiment lumineux, et pour moi, c'est mon livre de chevet, on dit chevet, oui. Chevet, oui. Surtout le chapitre 4 qui passe un peu à travers la lettre aux Corinthiens, donc les qualités de l'amour et comment grandir dans l'amour, c'est juste lumineux. Hein. Parenthèse, pape François, on peut être d'accord ou pas, les gens sont parfois en confusion, mais il faut juste accepter, c'est l'homme que Dieu a mis dans notre vie, et nous, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à travers lui. Donc là, c'est très clair, il est en train de nous ouvrir le cœur à dire, voilà, quel est le monde que nous avons en face, et comment ce monde doit apprendre à aimer. Et donc, il dit... Comme c'est écrit dans ce petit texte, promettre un amour qui durera toujours est possible si l'on découvre un projet plus grand que nos propres projets, qui nous porte et nous permet de donner tout l'avenir à la personne aimée. Ça veut dire, Moïse, du moment qu'il comprend que son boulot est une mission qui n'est plus juste sa vie, mais ce qu'il fait a un impact sur tout le peuple, ben, son attitude change. Et si vous connaissez bien l'histoire de Moïse, Moïse va toujours un peu râler avec Dieu. Il va toujours dire, oh, j'en ai marre, j'en peux plus. Donc, ce n'est pas grave, on a le droit de le faire. Surtout les Français. Il faut être juste. Mais, les Parisiens. Voilà. Mais, il y a un moment à partir duquel Moïse ne va jamais plus râler. Et c'est le moment de la rencontre avec Dieu sur la montagne quand il reçoit les 10 commandements la deuxième fois. Et donc là, il a compris que c'est lui qui va donner sa vie pour le peuple. Mais c'est la rencontre avec Dieu qui va apaiser son cœur. Parce que pendant qu'il essaye d'apaiser le peuple, d'accompagner le peuple, et tout tourne autour du peuple, il est toujours énervé par le peuple qui ne comprend pas. Mais c'est quand il entre pleinement dans la relation avec Dieu et quand il comprend que sa relation la plus intime doit être d'abord avec Dieu, et alors elle peut être avec le peuple, de ce moment-là, il ne râle plus. C'est fini. C'est impressionnant. Élie, c'est la même chose. Il râle. Boum, rencontre avec le Seigneur sur la montagne, et paf, c'est fini. Donc ça pour dire, dans le couple, je dois toujours savoir, ma première relation doit être Dieu. Si elle n'est pas Dieu, c'est impossible que je puisse être pour toi ce dont tu as besoin et que toi, tu puisses être assez pour moi. Parce que mon âme est faite pour quelque chose d'infini. C'est impossible que je puisse puiser toute ma joie en toi. C'est impossible. Théière de Chardin, on avait le Théière de Chardin comme curé, Olivier Théière, et Pierre Théière, qui est une figure sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord, mais il a un essai qui est assez lucide, qui s'appelle L'éternel féminin. Et donc, elle parle sur la beauté de la femme, et elle dit la beauté de la femme n'est pas la source de la beauté où un homme peut puiser toute sa soif de beauté, mais elle est un signe du fait qu'il y a une source infinie de beauté en Dieu. Ça veut dire, chaque femme, d'une manière unique, représente la source infinie de beauté de Dieu, et donc, elle la représente d'une manière unique. Donc, elle représente une facette unique de la beauté de Dieu. Et donc le but n'est pas qu'elle représente toute la beauté de Dieu, mais une facette particulière, ou plusieurs facettes particulières. Donc un homme, s'il sait que le signe de la beauté de la femme est le signe de la source infinie, il peut aller avec la femme vers la source et puiser là. Et vice-versa, évidemment, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont beaux, et parce que... Donc, oh, je dirais, ce que cherche la femme dans l'homme, c'est souvent pas la beauté, d'abord, mais la, voilà, la loyauté, qu'il n'y ait pas de surprise, quoi. Que demain, il n'y ait pas... Voilà. Mais ça aussi, tu ne peux pas trouver entièrement dans un homme. Cette fidélité absolue, cette stabilité absolue, tu peux uniquement la trouver en Dieu. Et elle existe en Dieu, et l'homme, pauvrement, est un signe d'être de cette grandeur, de cette stabilité, de cette sécurité de Dieu. Donc l'amour est un sacrement, le mariage est un sacrement. Là aussi, je pense, l'Église est en train de comprendre de mieux en mieux, et nous sommes dans un processus qui, à mon avis, commence à peine, de comprendre le rôle du couple dans l'histoire du salut. Je connais un prêtre en Italie qui a beaucoup travaillé avec le couple, qui connaît par cœur tous les documents de l'Église sur le couple et qui dit des choses juste incroyables qui sont écrites dans tous les documents du Vatican en deux, mais que personne dit, hein, sur la vocation du couple. Et lui, dans le canon, dans la prière eucharistique, il dit toujours pour notre pape François, notre évêque, les prêtres, les diacres et les couples, et tout le peuple est baptisé. Et je dis « yes !» Parce que dans le catéchisme, vous et nous, on est dans le même groupe. Vous savez, il y a, dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a les sacrements sont divisés en trois groupes. Un groupe, c'est les sacrements de l'initiation, donc baptême, eucharistie, confirmation. Un groupe, c'est les sacrements de la guérison, confession, sacrement de malade. Guérison. Et un groupe, c'est les sacrements au service de la communion. Et c'est les prêtres et les couples. Donc on a la même vocation. Et dans l'introduction, mais juste dans l'introduction, le catéchisme dit que les deux sont une forme de consécration. Ça veut dire, vous et nous, on est consacrés de la même manière. Jean-Paul II disait toujours, c'est la même vocation, juste la vôtre est conjugale, la nôtre est célibataire. Mais les deux, on est consacrés à aimer professionnellement, on peut dire. Ça veut dire, peu importe où, peu importe comment, peu importe sous quelles circonstances, peu importe qu'est-ce que fait l'autre, l'engagement que tu as fait est apprendre à aimer ou à réagir avec amour. Si tu fais ça, tu es un champion. Tu ne vas pas toujours réussir, mais si tu fais ça, l'Église grandit en sainteté. Et vraiment, c'est vraiment ça auquel nous sommes engagés. Et c'est très bien d'avoir des idées, peu d'idées très claires. Ok, mon but est arriver à réagir avec amour, plus ou moins en tout terrain. En tout terrain. Évidemment, pour cela, il faut d'abord découvrir qui en est aimé par lui. Je ne peux pas tout ça trouver dans l'autre. Et beaucoup de personnes ont eu des blessures par leur famille, par des circonstances d'enfance, de jeunesse. Aujourd'hui, je pense que presque tout le monde rentre avec certaines blessures dans la vie de couple, dans la vie de prêtre. Donc, si on n'a pas ça, ben on peut bel et beau essayer d'aimer, mais il y a comme un trou noir qui n'est pas rempli. Donc, évidemment, c'est plus complexe. Alors, sacrement, donc beaucoup des gens, je pense, arrivent au mariage avec une idée plutôt d'une bénédiction. Donc, Seigneur, viens nous bénir pour que nous puissions avoir la force dont nous avons besoin pour vivre bien notre vie de couple. Et Dieu, il fait ça. Mais son rêve est plus grand. Ça veut dire, les couples, souvent, je leur dis au début, quand ils viennent pour la première fois, voilà, pourquoi vous mariez à l'Église? Ben, parce qu'on veut faire ça devant Dieu, on veut faire ça avec Dieu, on veut qu'il nous donne force pour notre chemin, parce que ça ne sera pas toujours facile. Et, voilà. Donc je leur dis, donc vous sortez de l'Église après, et après, il y a des couples qui se marient dans l'Église, et après ils laissent Dieu dans l'Église, et ils savent que si jamais on a besoin, on peut revenir. Il y a des couples qui disent, mais nous on veut... Non, mais nous, on veut que tu viennes avec nous. Hein. Et donc, quand on a besoin de toi, on peut t'appeler. Hein. Donc, je leur dis, vous mettez Dieu derrière dans la voiture, vous partez, vous mettez un iPad, et comme ça, il est occupé. Et Dieu merci, tout va bien. Mais si jamais on a besoin, voilà, on peut. Voilà. Et beaucoup de couples commencent comme ça parce que tout va bien. En plus, on s'aime. Et c'est drôle, comme quand il vient dans la préparation, mais nous, on s'aime. Ah bon? Bon, d'accord. Alors, tu dis, bah, très bien, quoi. Vous avez la chance. Surtout, on ne s'aime pas et quand on se marie. Non et donc, vous partez en voiture et après, vous dites à Dieu, mais attends, mais tu veux nous dire quelque chose? Non, mais j'ai mon iPad. Et donc, finalement, Dieu nous dit, écoutez, moi, je suis ravi d'être avec vous. Et de si vous avez besoin de moi, voilà, je suis là pour vous. Mais moi, j'aimerais bien vous avoir dans mon histoire. Et moi, j'aimerais bien prendre le volant, ouais, parce que j'aime conduire. Dans un endroit, envers un endroit que vous ne connaissez pas, mais que vous me connaissez. Ouais, et donc, on va ensemble. Moi, j'aimerais faire ça avec vous parce que j'ai hâte d'aller avec vous là où vous allez aller et que vous soyez avec moi, là où j'ai envie d'aller. Ouais. Comme Jésus dit à Pierre, là où tu veux ne pas aller, où tu ne veux pas aller, peut-être. Donc voilà, donc par un sacrement, nous entrons dans son histoire. Une image qui est simple, mais que nous pouvons tous comprendre, parce qu'on a quand même une certaine culture royale. Quand Kate et William se sont mariés, ça on le sait tous, non? Je m'imagine que quand Kate saluait un enfant un an avant le mariage, quand elle caressait un enfant un an avant le mariage, c'est sympa, mais c'est pas plus que ça. C'est Kate Middleton que caresse un enfant et voilà. Le jour où elle s'est mariée avec William, si le lendemain elle caresse un enfant, ben c'est plus Kate Middleton qui caresse un enfant, mais c'est le Royaume-Uni qui caresse l'enfant. Et ça a un impact sur la vie de l'enfant. Elle n'a rien changé, elle a fait le même geste. Mais le même geste n'a plus la même signification, ni plus le même impact. Donc il y a réellement un changement radical, même si le bras c'est le même, la main c'est la même. Donc elle est entrée dans l'histoire de William, on peut dire elle est entrée dans l'histoire de la famille royale d'Angleterre, et donc chaque geste qu'elle pose porte la puissance de la famille royale d'Angleterre. Elle porte ça dans ses mains. Vous voyez pourquoi je vous dis ça. Donc, nous, les prêtres, par exemple, parfois le jeune me demande, oui, qu'est-ce que la différence entre avant et après? Parce que la majorité vivent déjà ensemble. Donc, qu'est-ce que change réellement entre avant et après? Et donc, quand ils m'ont posé la question pour la première fois, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que change pour le prêtre? Beaucoup change. Qu'est-ce que change entre avant et après? Et nous, dans ma communauté, avant l'ordination sacerdotale, pendant la dernière semaine, on répète la messe tout le jour seul. Donc, on va dans la crypte, dans notre église, et on se met chacun à un autel. Et donc, on s'habille, on met l'aube, les toles et la chasuble, on allume les bougies. Voilà, et on met le pain, le vin, la goutte d'eau, tout. Et on joue messe. Mais il ne se passe rien. Je prends le pain, je dis ceci à mon corps. Il ne se passe rien parce que je ne suis pas prêtre. Et c'est juste Paul qui fait ça. Et si je dis, je te pardonne tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ben, il ne se passe rien parce que c'est juste Paul. Après, le sacrement fait que je fais un pacte, une alliance avec le Christ et le Christ avec moi. Et le Christ, il s'engage avec mes gestes, mes paroles et ma vie. Et il dit, OK, faisons un pacte. Chaque fois que tu dis certaines paroles et tu poses certains gestes, je viens, parce que le monde en a besoin. Donc moi, je fais le lendemain exactement le même geste, avec exactement les mêmes paroles, mais conscient que, sans exactement comprendre, mais conscient que c'est plus moi qui est là. Et je dis ceci à mon corps, et le ciel s'ouvre, et le Seigneur descend pour nourrir, fortifier, guérir, pardonner, rétablir. Sauvé. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste fait exactement la même chose, mais le Seigneur a fait un lien avec moi. Et ça fait que mes mains, mes gestes sont remplis d'une puissance qui vient du ciel. Mais vous, quand vous vous mariez, c'est un peu comme Kate qui se marie avec William, c'est vous deux qui vous mariez avec le Christ époux. Donc ça, on oublie un peu le Christ époux. Ce n'est pas toujours très clair ce que ça veut dire, et surtout pour les hommes, on se marie avec un époux, voilà, on ne sait pas très bien. Mais donc le Christ époux, et nous devons un nous, nous devenons un nous, pour ainsi dire l'épouse. Donc on entre dans l'histoire du Christ, et on entre dans la famille royale du Christ. C'est-à-dire nous devons porteurs, nous devenons porteurs d'une puissance immense. Et c'est-à-dire, quand un époux trace une croix sur le front de son épouse, mais vous approchez la main du Christ à la tête de votre épouse. Le Christ s'est engagé avec vous de faire ça avec vous. Quand une épouse pardonne son époux, mais vous rendez présent dans la vie de votre époux, vous portez la puissance du pardon du Christ parce que vous êtes porteur d'un sacrement. C'est immense. Quand vous serrez l'autre dans le bras, non pas parce que vous avez envie de serrer de l'autre, mais parce que vous voyez que l'autre en a besoin. Et vous faites ça consciemment, comme époux ou épouse, comme un acte qui correspond à votre vocation. En fait, vous rendez présent sur la terre la tendresse du Christ. Quand un couple prie ensemble, vous actualisez la prière du Christ sur la terre. Vous faites descendre le Christ comme moi je le fais descendre sur l'autel. C'est immense. C'est immense. C'est eucharistique. C'est divin. Le problème est qu'on ne peut pas penser à ça tout le temps. Et ça, on oublie comme ça. Et c'est pour ça que je crois que la prière sert surtout pour se rappeler de ça. Surtout pour dire, attends. Je fais un pacte avec le Christ. Ok, si je fais un effort maintenant, parce que je suis à la maison, l'autre va rentrer, peu importe qui, non ? Et moi, j'ai envie de juste pleurer, parce que j'en peux plus, parce que la journée était une catastrophe. Et là, l'autre va arriver, ou moi, je rentre à la maison, j'ai envie juste... Et je me rappelle, ma journée commence maintenant. Parce que juste là, j'ai fait mon boulot, quoi. Mais là, c'est ma vocation. Donc, je vais me mettre ma veste de cuir avec... les boutons de métal, non ? Marié, sacrement, consacré au Seigneur. Paf, je me rappelle, non ? Je suis consacré au Seigneur. Non ? Et ben, je fonce, quoi. Je rentre et je vais essayer de me donner au moins les premiers deux minutes, quoi, pendant que je me rappelle. Et en faisant ça, vous faites un acte de salut. Ça veut dire l'histoire de salut des apôtres qui sont fatigués, de la Vierge Marie qui est disponible pour les apôtres. L'histoire du salut continue en ce moment, en vous, dans votre maison. Et votre foyer devient un lieu sacré où vous faites régulièrement descendre le Christ, même dans votre intimité charnelle, si vous l'apprenez à la vivre comme un don de soi, qui est tout un apprentissage, vous le savez beaucoup mieux que moi, parce que j'en sais rien, mais c'est grand et c'est immense. Le Christ agit avec vous, il s'est uni à vous, il s'est engagé avec vous, il dit « là où tu iras, j'irai avec toi, et ce que tu feras, je le ferai avec toi ». Donc, c'est une merveille de prendre conscience, surtout dans le moment des fatigues, d'épuisement, de dire « ce geste que je vais poser maintenant, c'est un geste qui sauve l'Église ». Ah, yes ! Donc, il faut trouver la manière de se rappeler de ça. Le problème est, si on fait le contraire, ça veut dire, si entre guillemets, on utilise Dieu pour nos idées, j'utilise Dieu pour m'aider dans mes affaires, c'est pas mauvais, parce qu'on a le droit de demander, parce que ça donne gloire à Dieu si on demande les choses. Et aussi, parce qu'on se souvient que Dieu nous aime, donc il m'entend et il a envie de m'aider. Mais, voyez, quand vous voyez le contraire que Meghan et Harry, hein, c'est Meghan qui a voulu prendre la royauté à son service. Plus ou moins comme ça. Hein. C'est pas, zéro jugement, juste j'essaie de voir le parler. Et donc, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que nous entrons dans l'histoire de Dieu, et c'est son histoire, c'est la première histoire. Déjà, par le baptême, en principe, nous sommes engagés à vivre dans son histoire. Ce que je vous ai dit sur le couple, en principe, il est valide pour tout baptisé. Donc, même si je suis célibataire, même si je ne trouve pas ma vocation, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui n'ont pas choisi, ils sont restés ou devenus célibataires. Mais en tant baptisé, toujours, je suis dans l'histoire de Dieu et tout ce que je fais, quand je le fais consciemment, voilà, est une continuation. Mais dans le couple, en fait, il y a une consécration Et le Christ s'engage. Donc. Et on peut dire, c'est un peu comme si on s'imagine, vous vous rappelez quand le premier homme est allé sur la Lune, il a mis le drapeau, non pas de la France, voilà, des États-Unis. Ouais. Et après, faut-il encore savoir si c'était vraiment. Voilà, on sait même pas si c'était vraiment ça aussi. Aussi, on peut tout être dans le studio. Parenthèse. En tout cas, il a dit, boum, la Lune, maintenant c'est les États-Unis. Mais le Christ, qui avec son Père et l'Esprit avait créé l'humanité pour une merveille, il nous avait créé capable d'aimer d'une manière absolue, la chute originelle, donc qui a causé une blessure originelle, comme on a dit ce matin, et non pas un péché originel, mais une blessure originelle, a fait comme conséquence que nous faisons fatigue d'aimer comme Dieu aime. Et ça, c'est le drame pour Dieu. Donc Dieu n'est pas du tout quelqu'un qui te reproche de ne pas aimer bien. Mais il dit, moi je suis prêt à tout faire pour que tu te rendes compte qui tu es pour moi, que tu te rendes disponible pour mon histoire, que tu accueilles ma grâce pour que tu me laisses accès à ton cœur pour te façonner, pour que tu apprennes que tout ce qui arrive dans ta vie, tout, je m'en sers pour faire de toi la personne dont j'ai besoin dans mon histoire. Tout, tout, tout. Ok. Mère Teresa, elle avait une relation assez particulière avec la Vierge Marie, très très intense. Et elle a travaillé aussi sur cette consécration, lui Marie Grignion de Montfort. Il y a un livre en anglais qui s'appelle 33 Days to Morning Glory. En fait, c'est une retraite de 33 jours qui reprend la vie de lui, Marie Grignion de Montfort, Jean-Paul II, Maximilien Kolbe et Mère Teresa, et comment ces quatre travaillent sur la consécration de la Vierge Marie et comment ils les développent. Merveilleux. C'est en anglais, mais je pense que ça existe aussi en anglais. Non, c'est en anglais. Ça existe aussi en, je sais pas, en espagnol, mais je ne sais pas si ça existe en français. Parenthèse. Et donc, à un certain moment, l'auteur parle d'une forme de pacte que la Vierge Marie a fait, que Mère Thérèse a fait avec la Vierge Marie. Et donc là, dans ce pacte, elle dit, ce sont 12 points, et un point, je me souviens, c'est donc, le devoir de Marie et le devoir de Thérèse. Et le devoir de Marie, elle dit, Marie assume la responsabilité sur tout ce qui arrive dans ma vie. Point. Et c'est pas mal de se dire ça. Hein? Parce que Marie, elle adore les pactes. Hein? Elle aime beaucoup parce qu'en fait, elle a renouvelé l'alliance. Donc elle rêve de l'alliance. Donc Marie assume la responsabilité sur tout ce qui arrive dans ma vie. Hein? Tout ce qui arrive dans ma vie n'est pas voulu par Dieu. Attention, c'est important. Mais Dieu peut s'en servir pour faire toujours son royaume de ça. Autre livre, parenthèse, puissance de la louange. Après, lire avec précaution parce que c'est écrit par un protestant, donc parfois il va un peu trop long. Donc, voilà. Fin de parenthèse. Beaucoup de parenthèses. Donc, Marie assume la responsabilité sur tout ce qui arrive dans ma vie. Rôle de Mère Teresa, accueillir tout ce qui arrive dans ma vie comme provenant des mains de Marie. Pas mal. Pas mal. Parce que, comme ça, ça veut dire Marie est là. Elle a dit, j'ai vu. Dieu n'a pas voulu parfois les choses, mais Dieu dit, je suis là, j'assume. Et si tu continues à me bénir au milieu de cette situation, moi je vais m'en servir de cette situation pour faire histoire de salut. N'aie pas peur. Mais sois prêt à que ça ne se passe pas comme tu avais prévu. Mais ça va se passer très bien. Parce que Dieu écrit des bonnes histoires. Et nous aimons des films avec des monstres et des presque catastrophes. Et Dieu apparemment aussi. Hein. Donc, alors, on revient. Donc, le catéchisme, donc, il dit, dans le numéro 1534 et 35, deux autres sacrements, l'ordre et le mariage, sont ordonnés au salut d'autrui. S'ils contribuent également au salut personnel, c'est à travers le service des autres qu'ils le font. Ils confèrent une mission particulière dans l'Église et servent à l'édification du peuple de Dieu. Non seulement le sacerdoce, mais aussi le mariage. Parce que, par exemple, c'est évident qu'un prêtre ne devient pas prêtre pour lui-même. C'est sûr. Et c'est aussi évident qu'un prêtre on ne devient pas prêtre pour être heureux. Okay, donc, ce n'est pas le but principal. Je deviens prêtre pour être heureux. Non, je deviens prêtre pour servir, aider, hein, et si je vis ça, je deviens heureux. Et j'en suis témoin, ça marche. Et pourtant, parfois, on peut se dire, je vais me marier pour être heureux. Et en fait, ça ne marche pas. Je me marie pour apprendre à aimer. Benoît XVI a cette phrase incroyable dans le livre « Celle de la Terre », dernière phrase du livre, où le journaliste Peter Zeewalt lui pose la question « Est-ce que vous pourrez résumer dans une phrase quel est le sens de la vie ?» Et lui, il dit « Apprendre à aimer, apprendre à servir. » Et je trouve que c'est pas mal, parce que ça déabsolutise la vie sur la terre et ce qui arrive sur la terre. Ça dédramatise le fait que les choses se passent différemment et qu'il y a une attente immense que j'avais m'échappe. Et Benoît XVI dit, le but c'est apprendre à aimer. Le but n'est pas que tu arrives finalement à faire exactement... Voilà, par exemple, je veux dire très franchement, moi je suis légionnaire du Christ. Donc j'ai choisi une communauté dont je ne savais rien quand je l'ai choisie. Après, quand je l'ai découvert, je me suis rendu compte qu'elle est magnifique, glorieuse, la meilleure du monde, et elle m'a sauvé l'Église. Et après, Humpty Dumpty had a great fall, la chute était profonde, et on a découvert que notre fondateur avait eu une vie double, malheureusement, pas comme les autres, mais pire que les autres, qui en plus était marié avec deux femmes qui ne savaient pas qu'il était prêtre, donc ça, il faut la faire quand même. Il a fait beaucoup de crimes. Il n'a pas que fait du mal, moi j'ai jamais vu tout ça, donc moi j'ai juste reçu des bonnes choses de lui, mais il nous a aussi communiqué un esprit qui était un esprit pas complètement pur dans ce qu'on cherchait. On cherchait trop nous-mêmes, trop nos projets, nos objectifs, etc. Donc en fait on était vraiment habité par ça, mais on n'était pas conscient. Donc au début on pensait que c'est que lui, c'était après sa mort, qui avait fait tout ce mal. Après, avec l'aide de l'Église, on a aussi compris qu'il fallait aussi voilà, mettre le cœur personnel en question. Et voilà. En fin de compte, c'était un temps de beaucoup de honte. Et moi, comme Allemand légionnaire de Christ, ben, c'est un peu comme vous en France. Ce n'est pas très cool. Tout ça commence avec les pieds dans le plat. On ne pourrait pas commencer pire. Voilà. Ben voilà, c'est comme ça. Bon, au Mexique, génial, légionnaire de Christ. Ouais. Ben, en Allemagne, non. Bon, peut-être que j'avais l'avantage d'être allemand, donc déjà en tant qu'allemand, tu commences toujours de mauvais côté. Donc c'est moins grave peut-être. Et franchement, je pense que ça m'a beaucoup aidé d'être allemand, parce que je me suis dit, on est déjà avec une tache sur la chemise. Et c'est pas grave, la vie continue. Là, la chute était profonde et beaucoup sont partis, et je le comprends. Moi, je me suis dit, je reste, parce que où j'irai, Seigneur, voilà. Mais j'ai compris qu'il ne faut pas construire sur l'homme, mais sur le Seigneur. Nous qui croyions qu'on allait sauver l'Église, mais c'est l'Église qui nous a sauvés, finalement, ce n'était pas une bonne leçon. Mais j'ai expérimenté qu'après une grosse humiliation, une grosse catastrophe, la vie continue. Différemment à ce qu'on avait pensé, et pas mal. Et donc, juste, on vit avec une honte qui nous accompagne, mais ça marche. Et quand j'avais compris ça, j'ai fait mémoire du fait que, avant de connaître les légionnaires de Christ, j'avais connu une autre communauté, à Barcelone, au moment que je voulais voir qu'est-ce que je ferais dans ma vie, je voulais faire un stage avec eux pour voir si peut-être Dieu m'appelait à devenir prêtre. Donc, quelqu'un m'a parlé de cette communauté. Il y a 2 ans, j'ai fait une enquête sur Internet, même histoire. D'accord. Et avant tout cela, j'avais pensé de me marier. Et j'avais une fille que j'aimais beaucoup, qui habitait en Italie, qui avait un cœur pur comme ça. Donc, je pense qu'elle me protégeait de moi-même. Et Dieu me l'a mis dans ma vie, je pense, pour me protéger aussi. Mais moi, j'étais très amoureux. Je pouvais parfaitement m'imaginer de me marier avec elle. Bon, après, je donnais le premier choix à Dieu. Et je me suis décidé de devenir prêtre. Et des années plus tard, j'ai su qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants parce qu'elle avait un problème médical. Et quand j'ai compris ça, j'avais compris assez vite. Après, il y avait l'histoire des légionnaires. Après, il y avait l'histoire de cette autre communauté. Et quand j'ai compris l'autre histoire de l'autre communauté, j'ai dit, attends, Seigneur. Donc, Donc, si je m'étais marié, serait-ce ben, pas d'enfant. Si je referais ce chemin avec cette communauté, chemin de honte, d'échec, avec l'autre communauté, chemin de honte, d'échec. Donc j'ai dit, mais attends, Seigneur, tu cherches quoi? Il dit, ah là, on arrive maintenant. OK, now I have your attention. Hein? Maintenant, on parle du business. Hein? Et pour moi, c'est une révélation. Ça veut dire, comme le Seigneur me dit, mais il dit pas, je m'en fiche de ton chemin, mais il dit, c'est pas ça que je cherche. C'est pas le cadre que je cherche. C'est pas que tu fasses les choses parfaitement. C'est pas ça que je cherche. Moi, de toi, j'ai besoin de ta liberté et de ton désir d'apprendre à être un don. Et tu ne vas jamais y arriver complètement. Et tu vas toujours traîner tes imperfections et tes lieux de fragilité parce que pour moi, ce sont les lieux de rencontre avec toi. Donc là, voilà, je reste avec toi, sinon tu m'échappes et tu n'as plus besoin de moi et tu vas foncer dans le mur. Donc aussi, nos imperfections qui nous accompagnent. C'est important de ne pas nous laisser frustrer par le diable qui accuse, 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 et qui nous parle tout le temps de nos imperfections. Antoine de Romanet disait, le diable connaît notre nom, mais il t'appelle par ton péché. Et Dieu connaît ton péché, mais il t'appelle par ton nom. Belle phrase. Hein. Bon, dans le couple, c'est important de ne pas juger l'autre pour ses fragilités, parce que l'autre probablement va avoir ses mêmes fragilités jusqu'à la fin de sa vie. Mais que tu te mets dans la logique de Dieu et tu dis, OK, là, c'est le Seigneur qui va le sauver. Et moi, peut-être, je dois aussi l'accompagner et apporter. Je ne peux pas être son sauveur, mais ce n'est pas à moi à changer l'autre, c'est à moi à apprendre à aimer. C'est à moi à apprendre à l'accueillir. Après, François dit très clairement, la patience, ce n'est pas se laisser maltraiter, mais la patience, c'est aussi ne pas attendre que l'autre change, mais accepter que peut-être l'autre ne changera jamais, mais moi, apprendre que je peux quand même l'aimer. L'aimer ne veut pas dire forcément être tout le temps avec elle ou avec lui, mais l'aimer, ça veut dire, voilà, vouloir son bien. Je ferme toutes ces parenthèses. Je me suis aussi dévié pas mal, mais en tout cas, le catéchisme, là, il parle d'une vraie... Ah oui, et donc dans le 35, il dit donc, en ces sacrements, ceux qui ont déjà été consacrés par le baptême et la confirmation pour le sacerdoce commun de tous les fidèles peuvent recevoir des consécrations particulières. Ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre sont consacrés pour être, au nom du Christ, par la parole et la grâce de Dieu, les pasteurs de l'Église, de l'autre côté, les époux chrétiens, pour accomplir dignement les devoirs de leur état, sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial. Et malheureusement, le catéchisme n'approfondit pas plus que ça sur la consécration. Et moi, je me dis, peut-être un jour, les couples, quand ils se marient à l'Église, conscients d'un sacrement, vont recevoir une onction. C'est mon espoir, mon espérance. Mais pour cela, l'Église va devoir continuer à développer qu'est-ce que ça veut dire vraiment la vocation du couple. Moi, je pense, c'est principalement d'être des producteurs d'un amour le plus semblable au Christ, pour que l'amour du ciel continue sur la terre. Et là où nous n'arrivons pas à aimer comme le Christ aime, nous accueillons le Christ tout le soir dans la prière du couple, idéalement, pour offrir à Dieu un amour parfait. Parce que vous pouvez offrir tous les soirs votre amour de couple, et pour tout ce qui manque, vous invoquez le Christ. Et vous le présentez, toute la fidélité du Christ, pour tout ce qui manque dans votre fidélité. Et en ce moment, réellement, vous présentez à Dieu le Père un amour parfait. Vous avez compris ça? C'est important parce que c'est comme Thérèse de Lisieux, elle dit pendant la messe, nous venons avec notre louange imparfaite, mais nous nous l'offrons à Dieu quand même. Le Christ descend, non pas pour nous regarder recevoir notre louange, mais il vient de notre côté pour louer avec nous. Et pour rajouter les voix qui manquent et la louange qui manque, et sa louange est parfaite, et donc avec sa louange, tout ça monte au ciel. Et c'est pour ça que pendant la messe, elle dit, Thérèse de Lisieux dit, nous pouvons aimer Dieu avec son propre amour. Et donc, c'est pour ça qu'au moment de la messe, monte vers le ciel une louange parfaite que nous ne pouvons pas faire en dehors de la messe. C'est pour ça que le prêtre dit, par lui, avec lui et en lui. Seulement par lui, avec lui et en lui, nous pouvons te louer, Seigneur Dieu notre Père, comme tu le mérites et comme nous avons besoin. C'est pour ça que le moment le plus important de la messe, c'est pas la consécration, pardonnez-moi, mais c'est par lui, avec lui, en lui, parce que Dieu ne devient pas homme pour être juste avec nous, mais pour nous rendre capables d'être pleinement enfants de Dieu, capables de louer Dieu, capables de proclamer les œuvres de Dieu. Ça, nous ne pouvons pas le faire sans le Christ. Nous pouvons uniquement le faire par lui, avec lui et en lui. C'est pour ça que ce moment de la messe, c'est vraiment le moment où du ciel, le ciel nous regarde et dit « Voilà, yes !» Oh, j'aimerais que vous soyez toujours comme ça. Et dans la mesure dans laquelle tu accueilles le Christ, vous accueillez le Christ dans votre vie, ben, voilà, là, votre prière, votre louange, votre vie devient de plus en plus sainte parce que le Christ est de plus en plus avec vous. Et donc, votre église, votre couple devient lieu voilà, où vous sanctifiez l'église, vraiment, réellement. Donc, oui, donc c'est pour ça que c'est de plus en plus important pour nous aussi de connaître bien l'Évangile, la parole de Dieu, la manière comme le Christ aime, pour que notre forme de se donner puisse se ressembler de plus en plus à celle du Christ. Donc, on peut dire « le Christ devient homme », pas d'abord pour nous dire quoi faire, mais d'abord pour rétablir sur la terre, donc on revient au drapeau, pardon, je parle pas, pour mettre sur la terre, bam, le drapeau de l'amour du ciel. Et après, il tient le drapeau, il dit, ok, qui est avec moi? Qui veut m'aider juste à essayer d'aimer un peu comme ça, ou aimer avec moi? Et donc, tous ceux qui sont enfants de Dieu sur la terre, ils disent, ben, moi je viens. Un chrétien, ça veut dire, je pense, du moment de la conception de tout être humain est enfant de Dieu, mais tout être humain ne sait pas qu'il est enfant de Dieu. Et je pense par le baptême, on entre dans cette conscience, dans cette relation, et on assume pleinement ce qui est déjà une réalité depuis Dieu, prévue, mais nous, on peut aussi vivre comme si on n'était pas enfant de Dieu. Et souvent, on le fait parce qu'on a peur, parce qu'on est rempli d'angoisse, parce qu'on est négatif, et là, on n'est plus enfant de Dieu. Donc, tous les baptisés font partie de cette mission, de cette croisade, on peut dire. Mais le Seigneur dit, oui, mais moi j'ai besoin des gens sur lesquels je peux toujours compter. Ça veut dire des gens où je ne dois pas faire un truc, allez, vas-y. Mais des gens où je dis, est-ce que tu es là? Boum, allez. Et ça, en principe, ce sont ces couples qui sont consacrés à son œuvre. Donc, de se dire quand on se marie à l'Église, on se consacre à l'histoire du salut et à son œuvre et à sa volonté et à ses projets. Bah, nous, on a nos projets parce qu'il faut, mais nous sommes toujours ouverts à accueillir ce qui vient de toi. Non? Le prêtre demande le couple avant la promesse du mariage, êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne? Bon, jusqu'à un certain moment, ça sont des petits, et après, ça sont des grands enfants que la marée fait arriver à votre rivage. Et vous avez tous des personnes que la mariée a fait arriver à votre rivage, où vous dites, je fais quoi avec cette personne? Dieu dit, hey, tu as dit que tu es prêt à accueillir les enfants que je te donne. Ah d'accord, donc ça, c'est ça. Non? Ou des situations, ou des projets, etc. Évidemment, je voulais dire beaucoup plus, je vais juste voilà, dire encore trois choses. Première chose, et donc là, on revient aux divisions. Donc, Seigneur, qu'ils soient tous un, mais aussi que nous soyons un, pour devenir vraiment un dans le couple. Moi, j'aime, pour les fiancés, mettre deux bonhommes de neige, où la partie grande en bas, je leur dis, ça c'est l'âme. La partie moyenne, c'est l'esprit. Et la partie toute petite de la tête, c'est le corps. Donc, j'ai dit, si deux petits jeunes couchent ensemble, ben, ça sont les têtes qui se touchent, et c'est presque rien, et c'est hyper fragile. Si deux personnes ont un projet de vie, et donc voilà, ils mettent leur volonté ensemble, ils discutent, ils réfléchissent, ils décident, ils choisissent, on peut dire que c'est les deux parties supérieures qui sont ensemble, mais c'est encore très très fragile. Nous pouvons unir nos corps et nos esprits, nous ne pouvons pas unir nos âmes, mais nous pouvons en priant accueillir le Dieu qui lui-même lui unit nos âmes. Plus que nos âmes nous unis, sont unies, plus nos vies seront unies. Plus qu'un couple apprend l'intimité de l'âme, la prière ensemble, plus ce couple, en fait, le Christ va devenir la force qui les unit, qui petit à petit les transforme. Parce que par la prière en couple, non seulement vous dites deux choses à Dieu, comme on a dit ce matin, mais aussi lui, il vous rend plus semblable. Il vous rend plus accueillant l'un vers l'autre et plus capable de devenir à nous. Nous avons commencé quelque chose en communauté que pendant... ça fait 33 ans que je suis dans cette communauté. Et donc, j'étais à plusieurs endroits. Et là, je suis à Paris depuis 13 ans. Et là, il y a un prêtre qui est venu en septembre dernier, Louis de Vaugelas, il s'appelle. Et lui, il a un don particulier de communion et de la parole. Et donc, il a réussi à nous faire, entre nous quatre légionnaires, avoir un échange une fois par semaine, vendredi matin, concrètement, après le petit déjeuner. On se parle en vérité. Non pas ce que j'aime ou pas en toi, etc., mais juste... je te dévoile ce que je vive en ce moment. Donc, ce qui me rend heureux, ce qui me fait peur, ce qui me motive,